Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le mardi 25 janvier.
Et voilà, ça fait toujours du bien d'entendre la musique des Bronzés, les Bronzés fondus, ce qui bien sûr, hein, c'est utile de préciser, et ça nous donne envie de monter en altitude. Vous avez des fourmis dans les bâtons, Julien?
Oh oui.
Ouais, comme chaque fois, comme chaque hiver. Peut-être que vous aurez la chance d'aller au ski cette année. Les prochaines vacances commencent dans 10 jours pour les Français de la zone B, hein, les Marseillais, les Lillois ou encore les Strasbourgeois. Et si vous n'êtes pas trop montagne, vous aurez peut-être envie de vous offrir un peu de soleil.
Quoi qu'il en soit, si le taux de réservation n'a pas encore retrouvé le bon niveau de 2019, c'est-à-dire avant la pandémie, les professionnels du tourisme se montrent plutôt optimistes. Mer et neige vont faire le plein.
Oui, quelles sont les meilleures destinations? Est-ce encore nécessaire d'attendre la dernière minute pour réserver vos séjours? Nous serons à 5h45 avec la fondatrice de l'agence de voyage My Travel Line. À la une de l'actualité, Julien.
Encore un nouveau record, 1,65€ le litre de gazole, c'est 3 centimes de plus que la semaine dernière. Et puis il sera beaucoup question aujourd'hui des tensions entre la Russie et l'Ukraine. Ce sera au menu de la rencontre entre Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ce soir à Berlin. Et puis, il y a ça, ce dérapage cette nuit de Joe Biden. Que l'on pourrait traduire par « espèce de connard ». C'est ainsi que le président des États-Unis a insulté un journaliste de Fox News à l'issue d'une table ronde à la Maison-Blanche. Bref, vous l'avez compris, il y a de l'électricité dans l'air.
À 6h10 ce matin, Julien, on reçoit la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées.
Sophie Cluzel, avec qui on a beaucoup de sujets à aborder. Tout d'abord, la semaine olympique et paralympique qui a débuté hier, l'occasion pour 700 000 élèves et handicapés, valides et handicapés, de renouer avec le sport en perte de vitesse avec la pandémie. D'ailleurs, avec près de 19 000 classes fermées, n'aurait-il pas été plus judicieux de reporter cette semaine? On posera la question à la ministre à 6h10. Enfin, on terminera avec votre partition, Omblin.
Direction Manchester, en Angleterre, à la fin des années 70, l'entrée du rock dans une nouvelle ère. La face sombre et hypnotique de la New Wave, la révolution post-punk de Joy Division dans la partition à 6h20.
On commence avec les météos. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Est-ce que ce soleil magnifique dont on a profité hier, on va continuer à en profiter aujourd'hui?
Alors oui, mais pas tout le monde. Parce que comme hier, nous allons commencer la journée avec beaucoup de nuages bas, beaucoup de brouillard, hein, de nombreuses gelées également du côté du thermomètre. Donc le risque de brouillard givrant est très important, en particulier sur les Pays de la Loire, en Champagne, dans le Val-de-Saône et dans la vallée de la Garonne. Voilà, dans toutes ces régions, soyez extrêmement prudents sur les routes, ça risque d'être compliqué. Ailleurs, on a déjà du beau soleil. C'est encore une fois sur les Alpes, hein, que la journée sera la plus belle et la plus ensoleillée. Et cet après-midi, Julien, c'est là que je vais répondre à votre question, au nord de la Loire, Bretagne, Normandie, région parisienne, Hauts-de-France, Lorraine, c'est nuageux.
Oh non !
Eh oui, le gris revient, ça va rester, ça va s'installer. En revanche, au sud de la Loire, c'est une nouvelle fois une très belle journée, très ensoleillée. On a moins 6 au Puy-en-Velay ce matin, moins 5 à Auxerre, moins 4 à Brive-et-Orléans, moins 3 à Clermont-Ferrand, Lyon et Metz, moins 1 pour Paris et Nîmes, 0 à Bordeaux et 5 à Nice.
C'est noté, merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Le ton continue de monter entre Moscou et Washington, les États-Unis et les Européens sur la même longueur d'onde. Après la réunion hier soir entre Joe Biden et plusieurs leaders de l'Union européenne, le Pentagone mobilise 8500 soldats prêts à intervenir en cas d'invasion russe en Ukraine. Tout beau, tout neuf, la SNCF lance ce matin son nouveau site internet SNCF Connect pour remplacer Oui SNCF. Une plateforme tout en un, réservation de billets, de taxis, location de voitures ou encore informations en temps réel. Et puis, les Tonga, toujours coupé du monde après l'éruption volcanique suivie d'un tsunami il y a 10 jours. Un phénomène d'une violence inouïe selon les premières conclusions de la NASA.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, le journal vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Concours de muscles sur le dossier ukrainien entre les États-Unis et la Russie, alors que Moscou menace toujours d'envahir l'Ukraine. Joe Biden place 8500 de ses soldats en état d'alerte, prêts à intervenir en cas de besoin. Le président américain et les leaders européens dont fait partie Emmanuel Macron se sont entretenus hier soir. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Il se montre uni face aux menaces russes.
Oui, et les alliés sont tous d'accord sur un point, il faut trouver une sortie diplomatique à cette crise ukrainienne. La France insiste notamment sur la nécessité d'un dialogue renforcé avec la Russie. C'est pour cela que Paris organise demain une réunion à quatre avec Moscou, Kiev et Berlin. C'est sur la question des sanctions qu'il y a encore quelques divergences. Les Européens parlent de conséquences sévères pour la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine, mais ne donnent pas de détails alors que Washington a clairement haussé le ton depuis deux jours. Évacuation des familles de diplomates, menace de gel d'exportation stratégique, car Moscou ne semble pas vouloir apaiser les tensions, selon le porte-parole du Pentagone.
Les Russes continuent de poster de nouvelles forces à la frontière avec l'Ukraine. En Biélorussie également, les chiffres augmentent. Donc non seulement ils ne montrent pas de signes de désescalade, mais ils renforcent leur capacité d'action.
Washington a donc mis en état d'alerte 8500 militaires, forces armées, logistiques, renseignements. Ces troupes pourront être déployées en Europe de l'Est seulement si l'OTAN le demande. Les Américains disent ainsi vouloir montrer qu'ils sont prêts à soutenir leurs alliés.
Merci Alexis Guilleux, correspondant européen aux États-Unis.
Sur le front de l'épidémie de Covid cette fois, avec l'entrée en vigueur du pass vaccinal hier, nouveau record de décès depuis le début de la cinquième vague, près de 400 en 24 heures.
Oui, dans le même temps, les admissions en soins critiques stagnent, voire baissent. Conséquence peut-être du vaccin adopté massivement, mais faire la queue dans un vaccinodrome bondé ou tout simplement voir un docteur, c'est un traumatisme pour certaines personnes, comme celles souffrant de handicap moteur. À Saint-Mandé, le centre Valconsulte propose des rendez-vous adaptés. Le reportage de Zoé Pallier.
Sa main moite, accrochée à celle d'une infirmière, Christian se laisse guider pas à pas vers le cabinet médical.
On va faire doucement, d'accord? C'est prêt, vous sentez?
Oui.
C'est fait. Vous appréhendiez, hein?
Oui.
Bon, finalement...
Ça s'est bien passé.
Ici, les consultations durent parfois une heure, le temps pour les patients de s'habituer au visage du médecin et de se laisser approcher.
Je préfère ici que dehors.
Dehors, c'est-à-dire ouais. Chez les autres médecins?
Ben oui, parce que j'ai pas l'habitude.
Certains viennent avec un casque anti-bruit, d'autres font des exercices d'hypnose pour se détendre.
Ça va.
Des consultations sur mesure pour dépasser l'angoisse de la piqûre et des soins. La docteure Tambosco doit d'ailleurs parfois cacher sa blouse blanche.
On reçoit des personnes qui peuvent avoir des souvenirs traumatiques de soins anciens et chez des personnes très fragiles, très sensibles. Une vaccination ou tous ces actes vraiment anodins pour une personne non handicapée, ça peut créer vraiment des réactions d'angoisse, d'anxiété. Voilà.
À tel point que pour certains patients atteints d'autisme, par exemple, il faut plusieurs rendez-vous avant de réussir la piqûre.
Zoé Pallier.
Et on va continuer cette discussion autour de la vaccination des personnes handicapées avec la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées justement, Sophie Cluzel, à 6h10. Nous sommes 16 millions tous les mois à nous rendre sur ce site internet pour réserver des billets de train. Ce site, on le connaît tous désormais, il s'agit de Oui SNCF.
Eh bien Julien, c'est fini. Grand lancement ce matin de SNCF Connect. Vous pouvez y aller dès maintenant, il est en ligne. Objectif, faire du tout en un, combiné information en temps réel, achat de billets, restauration à bord du train ou encore réservation de taxi. Aurélien Fleurot, c'était essentiel pour la SNCF.
Oui, cette nouvelle application, qui sera également un nouveau site internet, c'est le fruit de 2 ans de travail, 1 million d'avis clients analysés, des bêta-testeurs mis à contribution depuis plusieurs mois pour anticiper au maximum les problèmes. Et la partie la plus complexe a été la mise en place d'un outil de machine learning, d'apprentissage automatique, une technologie d'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs d'apprendre par eux-mêmes en fonction d'un historique. Et donc cet algorithme devra simplifier la vie des utilisateurs. Ce sera d'abord le cas en faisant un peu de place sur vos téléphones. Les habitués passeront de 2 applications minimum à une seule. SNCF Connect donc. La mise à jour sera d'ailleurs disponible dès ce matin. L'idée sera de centraliser toutes les interactions, toutes les informations, peu importe le type de train, de tarif, proposer un calcul de trajet en temps réel et même réserver un taxi ou une place de covoiturage plus facilement.
Aurélien Fleurot, spécialiste transport Europe 1.
Il est 5h passées de 6 minutes sur Europe 1 et nous sommes à 48 heures de l'ouverture des votes pour la primaire populaire, censée désigner un candidat à soutenir à gauche, mais boycotté par une partie des prétendants à l'Elysée. Une question, François Hollande se lancera-t-il lui aussi dans la course?
Vous le savez, hein, c'est déjà l'embouteillage dans les candidatures et pourtant l'ancien président de la République a lâché une petite phrase dimanche soir qui fait beaucoup réagir depuis 10 ans qu'il n'est pour l'instant pas candidat et qu'il parlera bientôt. François Hollande laisse donc planer le doute sur une éventuelle candidature, mais Alexis de La Fontaine, c'est une hypothèse peu probable.
C'est même complètement exclu, selon nos informations. Non seulement l'ancien président partirait de trop loin, rappelons qu'au mois de novembre, il n'était crédité que de 2% d'intention de vote dans un sondage, mais surtout, il ne souhaite pas diviser davantage son camp. Cette ambiguïté qu'il laisse planer n'aurait pas d'autre objectif, selon son entourage, que de faire réagir le Parti socialiste. François Hollande devrait prendre la parole mi-février, après le résultat de la primaire populaire, qui a lieu dimanche prochain. Quelques jours de réflexion donc pour analyser la situation et se prononcer. Deux options, Anne Hidalgo, qu'il soutient jusqu'à présent du bout des lèvres, ou Christiane Taubira, son ancienne ministre de la Justice, avec laquelle il entretient toujours de très bonnes relations. Officiellement, l'ancien président ne discute avec personne. Sa seule envie, confie l'un de ses proches, c'est de ne pas laisser son camp dans cet état.
Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
Cela fait 10 jours maintenant que les îles Tonga sont coupées du reste du monde, sans nouvelles.
Oui, 50 tonnes de fret humanitaire ont d'ailleurs été envoyées par bateau depuis la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Des tentes, des kits d'hygiène ou encore 10 000 litres d'eau potable. Et c'est urgent, 80% des habitants de l'archipel ont été touchés par le tsunami, selon les Nations Unies, conséquence d'une éruption volcanique d'une ampleur inouïe, selon la NASA. Elle a été plusieurs centaines de fois supérieure à la puissance de la bombe atomique d'Hiroshima lors d'Autriche.
Le volcan a craché un champignon de fumée qui a atteint 40 km de haut et l'éruption a été entendue jusqu'en Alaska, à plus de 9000 km de là. En 1945, la bombe atomique larguée sur la ville d'Hiroshima était estimée à 15 000 tonnes. Les scientifiques de la NASA estiment qu'ici, la quantité d'énergie libérée par l'éruption pourrait être de 30 millions de tonnes. L'éruption a recouvert de cendres toxiques toute l'île, qui compte environ 100 000 habitants, empoisonnée l'eau potable, détruisant les cultures agricoles. Elle a aussi anéanti au moins 2 villages. L'état d'urgence environnementale a été annoncé pour 3 mois, en particulier parce que des milliers de barils de pétrole se sont déversés sur les côtes, créant une marée noire qui continue de s'étendre.
Lors d'Autriche.
Au Cameroun, mouvement de foule mortel hier soir devant un stade de Yaoundé.
Oui, juste avant la rencontre Cameroun-Comores dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Bilan, 8 morts selon le gouvernement.
On termine ce journal par un mot de tennis.
À l'Open d'Australie, début des quarts de finale. Ce matin, chez les dames, Madison Keys a arraché sa place pour les demi. Ce matin, face à Barbora Krejcikova, 2-7, 6-3, 6-2. Pour les messieurs, Gaël Monfils va tenter d'obtenir son ticket pour le dernier carré face à l'Italien Matteo Berrettini. Rendez-vous en milieu de matinée.
10h15, si tout va bien. Merci beaucoup, Alban Le Prince, pour ce journal.
Il est 5h09 et c'est l'heure des courses avec Thierry Léger sur Europe 1. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 301, le Hulm. Il a collectionné l'an dernier les deuxièmes places et n'a pas été revu en compétition depuis le 10 septembre, ayant bénéficié de quelques semaines de repos. Je sais que ce poulain bien né a beaucoup évolué cet hiver, aussi bien physiquement que moralement, et il n'étonnerait certainement pas son entraîneur Christophe Ferland s'il parvenait d'emblée pour sa première tentative de l'année à s'imposer et ouvrir ainsi son palmarès. Alors notez bien, pour cet après-midi à Cagnes-sur-Mer, réunion 1 dans la 3e course, le numéro 1. Le Hulm.
Le numéro 1, le Hulm, c'est noté. Merci Thierry Léger. Vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon début de matinée à tous, il est 5h10 sur Europe 1.
Et c'est votre revue de presse, les trois histoires du pressing autour de la table avec nous, Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux comme chaque matin. La méfiance grandit entre les Français et les politiques. C'est le titre à la une du Figaro qui publie ce matin des résultats inquiétants, ceux du baromètre de la confiance politique du Cevipof et de l'Institut Opinionway, pour qui le pays vit une crise démocratique persistante sur fond de droitisation. En attendant, pour la présidentielle, tout va se jouer à la télé. C'est ce que prédit en une le Parisien aujourd'hui en France, même si on peut espérer une sortie de crise sanitaire et donc des meetings, du tractage dans la rue. Le petit écran va jouer un rôle prépondérant dans la course à l'Élysée. Reste une inconnue. Emmanuel Macron acceptera-t-il de se prêter au jeu du débat avant le premier tour? Autre question ce matin, celle en une de Libération au sujet de l'Ukraine. Pas de doute, les Russes se préparent, mais à quoi? C'est ce qu'interroge le quotidien avec pour illustration un soldat ukrainien dans une tranchée dans le Donbass. Voilà pour les unes. Amblin, quel article avez-vous sélectionné?
Alors, on connaît bien les influenceuses beauté sur Internet qui vous expliquent en trois coups de pinceau à blush comment réveiller, Julien, l'éclat de votre peau et redessiner, Martin, vos pommettes.
Conseil indispensable.
Les influenceuses mode n'ont plus de secret pour nous non plus. Comment bien porter le legging léopard avec des semelles compensées? Bienvenue aux influenceuses finance, des anonymes, mères de famille ou des femmes actives qui s'improvisent conseillères bancaires. Elles sont comme vous et moi, elles livrent sur leur compte Instagram et sur YouTube leurs trucs et astuces pour arriver à boucler les fins de mois sans se retrouver fichées Banque de France. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui les présente, ces influenceuses d'un nouveau genre. On fait par exemple la connaissance d'Angélique, une Rouennaise de 38 ans, mère de deux enfants avec son mari, et malgré des revenus corrects, ils ont rencontré des difficultés financières. Elle explique donc comment, depuis, ils arrivent à s'en sortir. Il faut comprendre que la force de ces influenceuses, c'est de se servir de leur vécu pour aider les autres. Et Angélique détaille notamment sa technique des enveloppes, c'est-à-dire retirer plusieurs montants en espèces et les répartir dans des enveloppes dédiées aux courses, aux loisirs ou aux restaurants.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très 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 contente de vous retrouver aujourd'hui.
Coucou.
Pour remplir mes enveloppes du mois de février. Alors, il y a un document comme ceci, voilà. Ma liste de courses.
Voilà, on remplit donc, les enveloppes, la liste de courses. Donc comme ça, tout est bien maîtrisé.
Donc tout est payé en liquide.
Elle montre, c'est exactement ça. C'est le meilleur moyen en fait de maîtriser ses dépenses, hein, d'avoir un budget fixe et donc avec des billets de banque. Elle montre comment elle répartit cet argent chaque début de mois et surtout comment cette méthode lui a permis de contrôler son budget, le budget du foyer, et de maîtriser ce qui sort au centime près et ce qui reste à la fin du mois est mis de côté pour ce qu'elle appelle un fonds d'urgence. Une autre enveloppe donc consacrée aux dépenses exceptionnelles comme une panne sur sa voiture. Elles sont donc plusieurs à nous aider de manière fun et ludique à gérer nos budgets, nos épargnes. Elles prodiguent des conseils sur les crédits, la fiscalité. Elles détaillent quels outils elles utilisent, quelles méthodologies et surtout on comprend tout, on comprend de quoi elles parlent. Des conseils pratiques pour contrôler nos finances sur les réseaux sociaux. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France.
Merci beaucoup Omblin. Martin, à vous.
Oui, dans 10 jours, c'est le début des Jeux Olympiques de Pékin. Des Jeux perturbés par le Covid, hein, vous l'entendrez une fois de plus dans le journal de 7h, mais des jeux qui sont aussi la cible des écologistes. En cause, une aberration, hein, il faut le dire, les Jeux 2022 seront les premiers à être organisés avec 100% de neige artificielle, à l'instar de la Coupe du Monde au Qatar, dans des stades climatisés, là aussi une première. Et alors que le réchauffement climatique est devenu un sujet de préoccupation mondiale, c'est à se demander, hein, si les instances internationales du sport ne marchent pas sur la tête.
Des stades climatisés, c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça, mais de la neige artificielle pour des Jeux Olympiques, ça a déjà existé, Martin ?
Oui, bien sûr, hein, c'est même une tendance lourde pour faire face aux imprévus climatiques de plus en plus nombreux. Les organisateurs en utilisent de plus en plus. 80% de la neige était artificielle à Sochi en 2014, 90% 4 ans plus tard à Pyeongchang, et donc 100% à Pékin cette année. Rien de vraiment nouveau donc, mais le symbole aucune neige naturelle est quand même fort. Alors il y a des explications à ce recours massif aux canons à neige. Les Jeux ne se déroulent pas vraiment à Pékin, mais dans la région du Zhangjiakou, désolé pour la prononciation, hein, c'est dans le nord-est du pays, une zone connue pour son aridité. Il n'y a quasiment pas d'eau là-bas l'hiver, hein, pour vous donner une idée, ces 4 dernières années, il est tombé en moyenne 7,9 mm de précipitations par an, hein, moins d'un centimètre donc. Pire encore, le temps est tellement sec dans le Zhangjiakou que des ingénieurs vont devoir congeler les sols avant d'asperger de neige pour limiter la déperdition. Une spécialiste interrogée par le site américain Bloomberg estime que les Chinois vont consommer 2 millions de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 800 piscines olympiques pour créer leur neige.
Mais alors pourquoi avoir choisi d'organiser les Jeux là-bas, Martin ?
Eh bien c'est une très bonne question, hein, d'autant que le CIO pointait déjà ce problème d'approvisionnement en eau dans un rapport datant de 2015, avant même de confier l'organisation à la Chine. Pékin, de son côté, estime que les retombées en termes de développement et d'emploi pour ce territoire pauvre seront énormes. Mais à quel prix ? Les JO d'hiver de Pékin sont une absurdité écologique. C'est à lire sur le site Slate.
Le CIO qui n'est plus à une contradiction près dans son histoire. Merci beaucoup, Martin. Je vous emmène à présent dans le sud de l'Angleterre, dans le Hampshire, précisément, près de Portsmouth.
Dans le...
Quel accent ?
Hampshire.
Ah oui.
C'est au sud-ouest de Londres. Et c'est ici que s'est joué la semaine dernière. Portsmouth, une incroyable histoire mêlant canidés, charcuterie et technologie. Je vous présente, je vous présente Millie, c'est un tout petit chien, un Jack Russell, réputé, vous le savez peut-être, pour être des chiens très vifs et passablement bornés. Quand le Jack Russell a une idée en tête, il est bien compliqué de le raisonner. Et Millie ne déroge pas à la règle, elle avait envie de voir la mer, et bien elle est allée voir la mer. La chienne a profité d'un moment d'inattention de sa maîtresse pour prendre la poudre d'escampette, direction la plage, ses embruns, ses mouettes. Milly a toujours trouvé ça chouette. Le problème, c'est qu'au bout de 4 jours, Milly n'est toujours pas rentrée de sa petite virée. Sa famille s'inquiète, commence à placarder des affichettes, quand un promeneur repère notre aventurière bloquée dans ce qu'on appelle les vasières, ces zones marécageuses en bord de mer. La situation n'est pas bonne. Dans quelques heures, la marée montante va tout engloutir et si rien n'est fait, la petite Milly va mourir. No way, répondent les secours. Pompiers, policiers, gardes-côtes vont tour à tour essayer de s'approcher du chien, mais que ce soit à pied ou en canoë-kayak, leurs tentatives sont malheureusement un échec. Milly est craintive, il va falloir ruser. Et si on accrochait une saucisse à un drone? Voilà l'idée suggérée par un sauveteur. On imaginait aisément le blanc qui a dû suivre, les regards interloqués. Puis c'est inespéré, why not, prononcé par le chef d'équipe. Mais comme les Anglais ne font jamais rien à la légère, surtout quand il y a des saucisses en jeu, les secouristes ont d'abord fait tout un tas de calculs et passé quelques coups de fil. La saucisse ne sera-t-elle pas trop lourde pour le drone? À quelle hauteur l'engin doit-il évoluer pour que son bruit n'effraie pas Milly? Et puis surtout, est-ce qu'on a le droit foncièrement d'attacher une saucisse à un drone? Question posée très sérieusement à l'autorité de l'aviation civile britannique qui a répondu « It's all good for us ». L'opération Save Little Dog pouvait donc débuter et comme les vidéos prises par le drone le prouvent, la saucisse attachée au bout d'une longue corde et préalablement évidemment cuite pour qu'elle libère toute son odeur, a fini par convaincre notre fugueuse de sortir de la zone risquée, même s'il a fallu s'y reprendre à plusieurs reprises. Et oui, lors de la première approche, Milly, la chippie, a réussi à attraper la saucisse. Saucisse a en croqué un bout, ce qui a failli faire cracher le drone. Au final, la saucisse a parfaitement joué son rôle et permis d'attirer la chienne sur la terre ferme où elle a immédiatement retrouvé sa famille, qui a d'ailleurs confirmé au passage aux sauveteurs qu'ils avaient eu le nez creux. Les saucisses sont bel et bien le péché mignon de Milly. Un drone sauve un chien à l'aide d'une saucisse. Ce n'est pas un hot dog, mais ça reste savoureux. C'est à lire sur le site de West France.
Et c'est une saucisse, on a pêché Milly avec une saucisse aussi.
Absolument.
Ouais, c'est passionnant. On a hâte de lire cet article.
Passionnant, c'est vrai.
Eh bien, on termine ce pressing ainsi. Merci beaucoup Julien, merci Martin et à tout à l'heure pour les sports.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h19 sur Europe 1, les principaux titres de ce mardi avec Alban Le Prince.
Américains et Européens sur la même longueur d'onde dans le dossier ukrainien. Les dirigeants des États-Unis et de plusieurs pays comme la France et l'Allemagne se sont réunis en visioconférence hier soir. Ils affichent un soutien sans réserve à l'intégrité territoriale de l'Ukraine menacée d'invasion par la Russie. Alors que le pass vaccinal est entré en vigueur hier, près de 400 personnes sont décédées du Covid en 24 heures, un record depuis le début de la cinquième vague. Margot, la fille de Jean-Luc Lahaye, mise en examen hier pour subornation de témoins dans l'affaire des soupçons de viol sur mineurs visant le chanteur, après les plaintes de deux jeunes femmes pour viol et agression sexuelle en 2013 et 2014. Après le feu vert du Sénat la semaine dernière, ultime vote des députés aujourd'hui sur la proposition de loi La République en marche visant à interdire les thérapies de conversion, pratique qui a pour but d'imposer l'hétérosexualité aux personnes LGBT.
Europe 1. Les initiatives en France, à présent ces petites et grandes actions aussi qui font bouger les lignes, c'est chaque matin à 5h20. Et aujourd'hui, Julien, on prend la direction de l'Alsace.
Bonjour Mathis Ringdal.
Bonjour Julien.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le PDG de Pixacare, une application qui permet aux équipes soignantes de surveiller à distance l'évolution des plaies de leurs patients. Expliquez-nous.
C'est une application mobile que l'on déploie dans des services, notamment hospitaliers, des services de chirurgie, de dermatologie et de plaies cicatrisation, et qui permet aux soignants de prendre les plaies en photo et de suivre efficacement la cicatrisation de manière totalement, disons, décentralisée. Donc, par exemple, pour un patient qui est à domicile ou un patient qui est à l'hôpital, les soignants peuvent collaborer et surveiller la cicatrisation, sachant que c'est un enjeu majeur dans les établissements de santé. Les complications de cicatrisation et les infections qui en découlent coûtent plus de 3 milliards d'euros par an au système de santé en France, et ça touche plus de 3 millions de personnes. Donc notre logiciel permet vraiment de détecter les complications directement depuis le smartphone avec la caméra du smartphone.
Quels services médicaux utilisent principalement votre application? On pense évidemment aux services des grands brûlés ou ceux de gériatrie?
Alors c'est ça, en fait tous les services disons qui sont relativement visuels et plus particulièrement les services de chirurgie. Par exemple tous les services de chirurgie vont opérer évidemment des gens, vous allez donc avoir des plaies consécutives à ces opérations. Donc chirurgie plastique, maxillofaciale, d'autres types de chirurgie, orthopédie notamment, et vous avez aussi donc les services par exemple de dermatologie qui vont évidemment traiter pas mal de pathologies cutanées, notamment des plaies. Et enfin, vous avez aussi tous les services qu'on appelle le soin infirmier, donc par exemple des services de plaies cicatrisation, des services notamment d'hospitalisation à domicile ou de soins de suite et réadaptation. Voilà, c'est des services où notamment il y a beaucoup de réfection de pansements et aussi de visites à domicile.
Et puis je citais les soins de gériatrie parce qu'il y a la problématique des escarres aussi.
Exactement, oui, c'est ça. Les escarres, donc, ce sont ces plaies que développent les personnes âgées qui restent alitées pendant longtemps. Et ces escarres se développent au fur et à mesure, donc dans les établissements de santé, aussi parfois dans les EHPAD. Et ce sont des plaies qu'on dit chroniques, hein, qui évoluent très lentement et donc dans lesquelles il doit y avoir une surveillance vraiment poussée de l'évolution. Si par exemple on ne détecte pas l'évolution de la plaie, eh bien, par exemple ça peut s'infecter, il peut y avoir des amputations aussi. Donc c'est extrêmement important de bien les surveiller. Donc c'est pour ça que notre solution se prête très bien à des services donc, de gériatrie qui s'orientent autour des personnes âgées en règle générale.
L'intérêt fondamentalement c'est que ça évite aux patients de revenir continuellement à l'hôpital pour faire contrôler leur plaie par les médecins.
Exactement, c'est ça. Vous avez typiquement un patient qui va voir le médecin et après, le médecin va prescrire un pansement ou un protocole de soins avec un soin infirmier. Et le patient va ensuite rentrer chez lui et usuellement, le patient, dès qu'il, par exemple, il va avoir une complication de cicatrisation, très souvent, eh bien, il va être hospitalisé alors que parfois, il n'y a pas de problème ou au contraire, le patient va avoir sa plaie qui s'accentue sans vraiment avoir de soins. Et c'est un manque de coordination autour de la prise en charge des plaies entre les infirmiers, les médecins et même la médecine de ville qui provoque parfois des retards de prise en charge qui coûtent excessivement cher au système de soins, avec des plaies qui peuvent durer plusieurs mois, plusieurs années. Et donc notre solution permet vraiment, grâce au numérique, de coordonner et de collaborer très efficacement autour de la plaie, donc que ce soit à l'hôpital, au domicile ou dans d'autres systèmes de santé. Et ça permet vraiment à tous les soignants d'avoir en un instant l'historique de la plaie et de le documenter de manière collaborative.
Et puis ça vient aussi mettre un peu d'ordre dans les pratiques, parce que ce n'est pas totalement nouveau. Hein. J'ai déjà eu affaire à des médecins qui m'ont demandé de leur envoyer des photos de plaies assez régulièrement. Ça existe, ça se fait.
Oui, tout à fait. En fait, la photographie médicale est particulièrement importante en règle générale dans la pratique. Très souvent, les professionnels de santé prennent des photos avec leur smartphone, les partagent avec des collègues pour demander un avis. Il y a aussi des patients qui envoient directement des photos à leur médecin pour permettre d'avoir un suivi. C'est des données donc, médicales très sensibles qui circulent par exemple par mail ou qui circulent par messagerie instantanée type WhatsApp, etc. Donc c'est aussi un enjeu de sécurité des données. Et donc notre solution permet vraiment de sécuriser cette pratique, cet échange et aussi de le rendre beaucoup plus efficient car toutes les données sont structurées avec le nom du patient, l'étiologie, etc. Et c'est vraiment actuellement un flux de données, disons, non structuré qu'on vise à rendre plus efficient.
Et si j'ai bien compris, vous comptez développer encore davantage Pixacare, votre application, en y intégrant à l'avenir de l'intelligence artificielle, c'est bien ça ?
Exactement. En fait, notre vision chez Pixacare, c'est que demain, la caméra du smartphone va devenir un dispositif médical particulièrement puissant et qui permettra de faciliter la prise en charge de beaucoup de pathologies visuelles. Alors, on commence avec les plaies chroniques. On a plusieurs centaines de milliers de photos qui ont été prises avec Pixacare à l'heure actuelle, avec plus de 20 000 patients qui ont été suivis. Et avec certains établissements partenaires, on a décidé de développer des outils d'aide à la décision basés sur ces photographies. Donc, typiquement, on a des photographies médicales de plaies qui sont annotées ensuite par des experts, des médecins, qui vont donc apprendre au logiciel à reconnaître, par exemple, les différentes zones d'une plaie, la nécrose, le bourgeonnement, etc., et permettre aussi au logiciel de calculer la taille de la plaie. Et en fait, ces outils-là rendent le logiciel plus intelligent puisque ça permet vraiment aux soignants de gagner du temps. Il suffit qu'ils prennent la plaie en photo et ça automatise totalement la qualification de cette plaie. Alors, ce n'est pas forcément du diagnostic, hein, on ne va pas dire quel type de pansement il faut mettre, mais plus un gain de temps. Ça permet vraiment de documenter la plaie en un instant sans avoir à calculer la taille ou prendre une réglette pour la mesurer en centimètres.
Et ça simplifie la vie des soignants et des médecins. Merci beaucoup, Mathis Ringdal, de nous avoir présenté ce matin Pixacare, l'application médicale qui permet le suivi des plaies. Très bonne journée à vous et à bientôt.
Merci beaucoup. Très bonne journée.
Europe Matin. Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon réveil sur Europe 1. On ouvre tranquillement les paupières tout en jetant un œil sur le programme de la prochaine demi-heure, Omblin.
Et comme tous les mardis, rendez-vous littérature avec Nicolas Carreau. Il a choisi le nouveau roman de Frédéric Becbédé. Un nouveau récit autobiographique. Il revient sur ses souvenirs d'enfance. Ça s'appelle Un barrage contre l'Atlantique. On en parle dans 20 minutes.
Et puis, qu'est-ce que vous faites pour les vacances ?
Elles approchent à grands pas, ces vacances, pour les Français de la zone B. Elles commencent dans 10 jours. Si vous avez la chance de partir, vous êtes plutôt montagne ou plutôt destination soleil, quoi qu'il en soit. en soi. Après deux années de crise sanitaire, les vacanciers semblent avoir envie de partir et de se faire plaisir. On en parle dans un quart d'heure avec la fondatrice de l'agence de voyage My Travel Line.
Et on les comprend. Les Français qui ont envie de partir en vacances, la météo à Nice a dit aujourd'hui. Beaucoup de brouillard en tout cas ce matin.
Et même un peu plus qu'hier encore, Julien, ce matin. Donc faites très attention. En Bretagne, sur les Pays de la Loire, dans le centre Val-de-Loire, faites attention au brouillard givrant. De la Normandie à la région parisienne, là aussi, soyez prudents. Sur les routes, ça risque d'être compliqué. Les brouillards givrants vont même s'étendre jusqu'à la Bourgogne, l'Auvergne et jusqu'en vallée de la Garonne dans le sud-ouest. En montagne, rien à signaler. Hein, dans le sud et en montagne. Là, on a un grand, beau et franc soleil dès ce matin. Alors cet après-midi, certains brouillards dans le sud-ouest, le Poitou et le Val-de-Saône vont persister. Ils auront vraiment du mal à se dégager. Mais au sud de la Loire, c'est une journée encore très belle et bien ensoleillée. Au nord de la Loire, entre la Bretagne et les Ardennes, en passant par la région parisienne, la Normandie, les Hauts-de-France, on a un ciel qui va rester gris tout l'après-midi avec pas mal de passages nuageux et surtout ces nuages bas qui persistent. Les températures, on a moins 6 à Nevers, il fait froid, attention au brouillard givrant. Moins 5 à Montluçon, moins 4 pour Amiens et Nancy, moins 3 à Strasbourg et Lyon, moins 1 pour Paris et Carcassonne, 4 à Bastia. Et cet après-midi, seulement 2 à Orléans, 4 à Paris, ça baisse, couvrez-vous, 6 à Brest et 14 à Nice.
Prudence si vous prenez la route, merci beaucoup Anissa Dadi. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce mardi, une révolution au sein de l'excellence. Fini la sélection sur dossier pour entrer à Louis le Grand et Henri IV. Les deux plus prestigieux lycées parisiens seront soumis aux algorithmes pour le recrutement des élèves. Objectif, favoriser la mixité sociale. La suite de la visite d'Emmanuel Macron, le Tour de France du président s'arrête dans les campagnes. Après la Creuse hier, la Haute-Vienne aujourd'hui et toujours pas un mot sur sa candidature à l'Élysée. Et puis, c'est l'une des révélations musicales de l'année. Alexia Grédy sort un premier album, son titre hors saison.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, les informations vous sont présentées par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. L'algorithme a ses raisons que la raison ignore parfois. C'est une petite révolution et comme chaque révolution, elle ne fait pas que des heureux. Louis le Grand et Henri IV, les deux plus grands lycées parisiens, ne recruteront plus leurs élèves sur dossier, mais ils devront s'en remettre à AffelNet, une procédure informatique de sélection dont le but avoué est de favoriser la mixité sociale. Et ça fait déjà débat, Céline Géraud.
Effectivement, jusque-là, pour intégrer ces deux célèbres lycées, il fallait monter un dossier très solide. 2000 candidatures pour 300 places, mais 300 élèves issus de 150 collèges différents et dans toute la France. Alors pourquoi casser cette exception? Depuis 2020, l'Académie de Paris mène une grande réforme. L'objectif? Plus de transparence et plus d'équité dans les 45 lycées publics de la capitale. Pour y arriver, ce logiciel AffelNet fait le tri en se basant sur la proximité géographique, les spécialités cochées par l'élève, mais aussi un indice de position sociale qui prend en compte les catégories socio-professionnelles des parents. L'ambition, renforcer la mixité sociale dans l'enseignement public grâce à une meilleure répartition des élèves boursiers. Actuellement, il est de l'ordre de 9% à Louis le Grand et à Henri IV, contre 24% pour l'ensemble de l'académie. Mais pour les élèves, les professeurs, les parents d'élèves, l'éducation nationale se trompe de combat en s'attaquant à des siècles d'excellence. La riposte s'organise à suivre.
Eh bien, à suivre, on va voir ça tout de suite. La polémique est déjà en train d'enfler. Dans le Figaro ce matin, l'essayiste et président de l'Institut Sapiens, Olivier Babot, dénonce un nivellement par le bas sous couvert d'égalitarisme.
C'est peut-être le début de la fin d'excellence, je trouve en tout cas c'est aller vraiment dans le mauvais sens, c'est vraiment mauvais signe. On devrait essayer de multiplier les centres d'excellence comme Louis le Grand et Henri IV partout en France, plutôt que de supprimer Louis le Grand et Henri IV dans leur spécificité. L'excellence n'a plus bonne presse parce qu'elle n'est pas égalitaire, elle est censée humilier ceux qui ne le sont pas, elle est censée créer des différences qui sont devenues inacceptables. On ne croit plus que nos élites sont tellement plus capables que les autres, on casse ce qui marche pour éviter de trop montrer ce qui ne marche pas.
Le président de l'Institut Sapiens, Olivier Babou, il répondait à Céline Géraud.
Chaque déplacement d'Emmanuel Macron le ramène toujours à cette sempiternelle question. Va-t-il se représenter?
Des lycéens et des journalistes présents hier dans la Creuse ont tenté de lui arracher quelques indices. Peine perdue, le président, pas officiellement en campagne pour sa réélection, a entretenu le flou sur ses intentions. Emmanuel Macron va se rendre aujourd'hui en Vienne, en Haute-Vienne, avec une visite du village d'Oradour-sur-Glane, théâtre d'un massacre commis par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Un moment de recueillement et de répit pour le président qui ne peut plus faire un pas sans qu'on lui pose la question de sa candidature, Jacques Seret.
Oui, et il devient de plus en plus difficile pour Emmanuel Macron d'y échapper. À peine arrivé dans la Creuse, au lycée agricole de A1, Tom, 18 ans, l'interpelle.
Du coup, ça va être ma première élection. Est-ce que vous vous présentez aux élections? La question.
Moi, en temps voulu, j'annoncerai ma décision. Je vais déjà continuer à me battre jusqu'au bout. Si tout avait été réglé, c'est pas le cas. Donc réponse au prochain épisode.
J'annoncerai ma décision en temps voulu, lance le président, comme si ce n'était pas le moment, comme s'il n'y avait pas de campagne. Emmanuel Macron, en tout cas, fait mine de ne pas en être certain.
Il paraît qu'on est en campagne, et donc il y a apparemment beaucoup de gens qui, dans ces cas-là, sortent des choses et vous font dire le contraire.
Il paraît, apparemment, le locataire de l'Élysée s'amuse de cette situation. Un certain cynisme qui a un avantage pour lui, créer l'attente et surtout monopoliser l'attention. C'est ça, une campagne qui ne dit pas son nom.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Le Parlement devrait entériner aujourd'hui la fin et la mise hors la loi des thérapies de conversion.
Oui, cette proposition de loi de la majorité a déjà reçu le feu vert du Sénat. De quoi s'agit-il? Ce que l'on appelle aussi les thérapies de conversion sexuelle sont mises en place au sein même de l'Église catholique. Le but, modifier ou réprimer l'identité d'une personne attirée par quelqu'un du même sexe que le sien. Jean-Michel Dunant en a été victime.
Au début des années 90, eh bien, j'ai vécu 8 exorcismes qui m'ont énormément fragilisé, à la fois psychologiquement et physiologiquement, puisque les personnes qui m'accompagnaient étaient persuadées que j'étais habité par le démon de l'homosexualité. Ça, ça a été terrible. Ce qui m'a le plus touché et qui continue à me toucher aujourd'hui, c'est le fait d'avoir été attaché lors du dernier exorcisme sur un lit sanglé. On n'oublie jamais, le corps n'oublie jamais, il a une mémoire, n'oublie jamais ce moment-là. C'est le fait d'avoir été attaché et finalement c'est très symbolique parce qu'il a fallu et il faut encore aujourd'hui que je me libère de tout ce formatage.
Un témoignage recueilli par Arthur Pereira. La loi que s'apprête à voter le Parlement prévoit jusqu'à 30 000 euros d'amende et 2 ans de prison.
La crise ukrainienne, les Occidentaux mettent à nouveau Moscou en garde contre toute tentative d'agression.
Un soutien sans réserve à l'Ukraine et la promesse de conséquences très lourdes pour les Russes en cas d'invasion. C'est le message martelé par les États-Unis et les Européens à l'issue d'une réunion en visioconférence. Le président Emmanuel Macron évoquera la situation ukrainienne ce soir à Berlin avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Le chef de l'État a par ailleurs prévu de s'entretenir avec Vladimir Poutine dans les prochains jours, c'est ce que fait savoir l'Élysée. Au Cameroun, 8 personnes sont mortes lors d'une bousculade devant le stade de Yaoundé, juste avant le 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Cameroun et les Comores. Match remporté par les Camerounais de buts à 1.
C'est l'une des révélations de l'année. Alexia Grédy sort son tout premier album.
Hors saison est sorti ce week-end, en effet. Premier album de cette Parisienne de 30 ans, œuvre dont elle a signé les paroles, la musique et la coproduction. Naïma Benjeman.
Quand ton cœur s'est accéléré, j'ai tout fait pour te résister.
Hors saison, le premier album d'Alexia Grédy est hors du temps, comme retenu dans les 60s du côté de chez Françoise Hardy ou Barbara, auquel on pense en l'écoutant.
Nous c'est un grand chassé croisé, je suis bien trop sentimentale.
Ce goût de jouer avec les mots, c'est quelque chose que j'ai depuis enfant. Donc c'est un peu la suite logique des petits poèmes que j'écrivais quand j'étais enfant.
Sa poésie érudite laisse transparaître une émotion à fleur de peau qui se ressent à chaque note.
J'avais envie que la musique exacerbe un peu ces sentiments. À chaque fois, je l'ai pensé comme quelque chose de sensoriel avec les gens avec qui je l'ai travaillé. On voulait vraiment que ça les mette en avant, qu'on puisse le ressentir.
Pourquoi je pleure dès que la lâche ? J'aime l'amour vertigo.
Alexia Grédy et sa voix de porcelaine nous accrochent le cœur et nous entraînent dans un vertige de l'amour.
Je suis
Naïma Benjeman, hors saison, premier album d'Alexia Grady. L'Open d'Australie de tennis, premier quart de finale du tableau masculin. Raphaël Nadal affronte en ce moment le Canadien Denis Shapovalov. L'Espagnol a remporté la première manche. Le match entre Gaël Monfils et Matteo Berrettini est prévu en début de matinée pour nous vers 10h. Et puis la France se replace dans la course à la qualification pour les demi-finales de l'Euro de handball. Les Bleus ont dominé le Monténégro hier soir 36-27. Un nul contre le Danemark demain soir suffira à les envoyer dans le dernier carré.
Allez les Bleus. Merci beaucoup Christophe Lamain pour toutes ces informations. On passe aux courses hippiques, les pronostics du Quintet. Thierry Léger, bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur les 2000 mètres de la piste en sable fibré de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer que va se courir ce Quintet. Et je n'ai pas hésité un seul instant à placer en tête de ma sélection Koshenko, le numéro 1, vainqueur de cette même épreuve il y a 2 ans et 3e l'an dernier, qui a été préparé avec soin en vue de ce Quintet, un objectif programmé de longue date par son entourage. On lui opposera son compagnon d'entraînement, le numéro 10, Allez Henri, lauréat de ce Quintet il y a 3 ans et qui a certes depuis connu des fortunes diverses, mais sachez qu'en dépit de ses 11 ans, il affiche le matin à l'entraînement une condition physique optimale. Ensuite, je vous recommande les numéros 12, Glaer, qui reste sur 3 faciles victoires et dont les limites actuelles restent à déterminer. 11, By the Way, ayant déjà bien réussi sur cette PSF cagnoise, et 4, Kudrostov, à nouveau muni d'une paire d'œillères afin qu'il soit un peu plus concerné par son job de cheval de course. Enfin, les numéros 3, Ridouane, 5, Prince Anodin et 7, Toriano, compléteront ma sélection. Mon pronostic, As, 10, 12, 11, 4, 3, 5... et 7.
Alors pas de panique si vous n'avez pas eu le temps de noter, parce que nous on n'a pas eu le temps.
As,
eh bien,
10, 12,
ouais. Quelque chose comme ça. Les pronostics sont à retrouver dès maintenant sur europe1.fr, soyez rassurés. Merci beaucoup Thierry Léger.
Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
L'ONG Transparency International va publier ce matin son classement annuel des pays les plus corrompus. Bonjour Pauline Jacquot.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Un point central de ce classement, c'est le poids du secret défense. On va revenir avec vous, Pauline, sur une affaire emblématique de ce point de vue-là. Les frégates de Taïwan, rivalité d'industriels, contrat d'armement, pot de vin, mort suspecte. Des années d'enquête, de procédures judiciaires, Pauline, qui n'ont jamais abouti.
Coup de théâtre, en 2008, après 7 ans d'instruction, le secret défense éteint l'un des plus gros scandales politico-judiciaires français.
Il n'y aura pas de procès dans l'affaire des frégates de Taïwan. Le parquet requiert un non-lieu général.
500 millions d'euros ont disparu, mais il n'y a pas de coupable. Le juge Renaud von Ruinbeck doit renoncer. Il n'a pas accès aux documents, aux montants, aux noms des intermédiaires. Pendant 17 ans, aucun gouvernement de droite comme de gauche n'a accepté de lever le secret défense, malgré les demandes incessantes de l'ancien juge Thierry Jean-Pierre.
Il est évident qu'on maintient le secret défense à cause des rétrocommissions et des commissions qui ont été versées, mais aussi pour ne pas plus tard avoir levé le secret défense pour les autres contrats de vente d'armes.
Un contrat, Pauline, de 1991 qui portait donc sur l'achat par Taïwan de 6 frégates françaises. Le contrat Bravo entre Thomson CSF d'un côté et un conglomérat taïwanais de l'autre.
Et qui interdisait formellement le principe de commission. Mais 10 ans après la signature du contrat, celui qui était alors ministre des Affaires étrangères sous François Mitterrand, Roland Dumas, admet qu'il y a eu des rétrocommissions dans ce dossier. Son ancienne maîtresse, Christine de Viejoncourt, reconnaît avoir œuvré pour le convaincre d'acheter ses frégates à Taïwan. Elle est invitée en janvier 2000 chez Jean-Pierre Elkabbach.
Si on ouvre ce dossier, c'est tellement explosif, monsieur Elkabbach, que peut-être il y a beaucoup, beaucoup de politique qui tomberait. Alors peut-être qu'effectivement, ça met la République aujourd'hui en danger.
Pour être cru, il faut dire qui.
Mais l'affaire est tentaculaire. Silence chez Thomson CSF, les concepteurs des frégates vendues 16 milliards de francs à Taïwan. Silence dans la classe politique française. Silence des ministres des Finances. Et relax de Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères, qui a donc changé d'avis entre 88 et 91. Il ne voulait d'abord pas froisser la Chine en vendant à Taïwan. Puis il s'est laissé convaincre. Mis en examen en 98, Roland Dumas sera relaxé donc par la Cour d'appel de Paris 5 ans plus tard.
Affaire emblématique, Pauline, puisqu'il y a aussi plusieurs morts suspectes qui n'ont jamais été élucidées.
Un cadre de Thomson CSF, un capitaine de marine taïwanais, un ancien agent de la DGSE, Thierry Imbeau, qui avait démissionné et qui, selon certains, s'apprêtait à parler à la presse. Selon les conclusions officielles, il aurait basculé de sa fenêtre du 4e étage.
Merci beaucoup, Pauline Jacquot. C'était le jour où... Vacances, j'oublie tout. Peut-être allez-vous en profiter en février. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 5h44 et les vacances d'hiver commencent en fin de semaine prochaine, le 5 février, pour les Français de la zone B. Les professionnels du tourisme se montrent d'ailleurs plutôt optimistes. Nous sommes justement avec l'une d'entre eux, la fondatrice de My Travel Line.
Bonjour Pascaline Chabert, vous avez créé l'agence de voyage My Travel Line avec Margot Bernier. Vous organisez des séjours sur mesure en France, mais aussi partout dans le monde. Donc vous avez été directement impacté par la crise sanitaire et par les diverses restrictions et fermetures de frontières. Comme vient de le dire Julien à l'instant, faites-vous partie des voyagistes optimistes ?
Oui, complètement. Il y a vraiment une reprise qu'on sent tous les jours de plus en plus. Les gens ont vraiment envie de voyager. Ils ont été complètement frustrés de ne pas pouvoir voyager, même s'ils sont restés en France. Je pense qu'ils ont vraiment envie d'exotisme et d'entendre parler d'autres langues et de vraiment voyager même loin. Donc on ressent vraiment ça et tant mieux, parce que c'est vrai que ça va bientôt faire 2 ans et il y a eu quand même plusieurs mois où les aéroports ont été carrément fermés. Donc on a vraiment été à l'arrêt plusieurs mois. Donc ça fait vraiment
plaisir. Où les
Français
ont-ils envie d'aller cet hiver, alors s'ils ont envie d'exotisme ?
Alors les Français, on a heureusement l'île Maurice qui a rouvert depuis le mois d'octobre. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, parce que c'était une destination privilégiée des Français, vol direct, aller-retour, vol de nuit, un très grand large choix d'hôtels, que ce soit du 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Donc ça correspond à une grosse clientèle, quels que soient les moyens, il y a une hôtellerie de charme là-bas. Maintenant, plus près, il y a toujours Dubaï qui sort ses cartes, parce que depuis 2 ans, on dirait qu'il n'y a pas eu coronavirus à Dubaï. Donc les gens vont énormément à Dubaï. Les Maldives aussi, qui sont très à la mode aussi, qui n'ont pratiquement pas fermé. Ça a un côté très rassurant parce que ce sont des petites îles. Donc les gens se sentent rassurés. On n'est pas les uns sur les autres. Voilà, il y a ce côté-là. Le Mexique aussi, puisque c'est pareil, c'est très facile d'y aller. On demande peu de conditions sanitaires à l'arrivée, pas de tests, etc. Le Brésil aussi. Les gens qui perdent un petit peu dans l'histoire, c'est les Antilles françaises, parce que il y a une hôtellerie qui a beaucoup baissé. Il y a un peu peur de tout ce qu'on entend par rapport aux manifestations, etc. À part Saint-Barth, qui reste une destination à part, complètement préservée, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui vont et c'est pas considéré comme Martinique, Guadeloupe. La destination aussi favorite des Français en février depuis des années, c'était aussi le Maroc. Pour l'instant, on est dans l'attente de l'ouverture des frontières, donc on ne sait pas du tout si ça sera ouvert pour la mi-février. Ils sont aussi très perdants, ce pays, par rapport à nous, parce que les gens vont réserver et ils ne vont pas prendre le Maroc parce qu'ils n'attendront pas. Ça va être trop tard s'ils nous annoncent dans une semaine que ça sera ouvert mi-février, ce sera trop tard.
Donc si on se rapproche un petit peu de chez nous, puisqu'on évoque les vacances de février en France, la montagne, ça se passe
alors,
comment
la
en
montagne,
ce moment
c'est
la neige est là, la présente.
Oui, il y a beaucoup de neige, il fait très beau. C'est vraiment quelque chose, de toute façon, depuis des années, même avant le coronavirus, les Français ont pris l'habitude d'aller au ski en France, à la neige. Donc au mois de février, c'est quelque chose d'incontournable, la première ou la deuxième semaine des vacances. Et donc cette année, ce ne sera pas différent. Et en plus, l'année dernière, les stations étaient fermées. Donc les gens n'ont eu qu'une envie, c'est de retourner. Puis c'est rassurant parce que c'est la France, donc on peut y aller même en voiture. Il n'y a pas ce côté-là de stresser pour le vol ou quoi que ce soit. Donc c'est les Alpes, les stations, Méribel, Courchevel, tout ça, ça marche très fort. Et je pense qu'ils vont être très contents de leur saison.
Oui, il y a une vraie reprise. Est-ce que les vacanciers ont envie d'innover ? Est-ce que vous avez ressenti ça, vous, dans votre agence ? Si on partait en vacances à la neige en février, on garde nos habitudes, on part skier. Si on partait au soleil, on part au soleil. Est-ce qu'on n'a pas changé nos destinations ?
Alors oui, on a changé dans la mesure où les gens, comme je vous disais, avaient un peu peur de prendre l'avion au tout début de la pandémie, même la première année. Maintenant, moi, je trouve qu'il y a un retour à la normale dans l'esprit des gens, où ils commencent à aller au-delà de ça et commencer à se dire ben, on a envie de partir. Donc, même s'il faut faire un test PCR avant de partir, on va le faire. C'est pas ça qui va nous empêcher de partir. Mais bien sûr que les gens ont tendance à aller un peu plus près qu'avant, même plus en Europe, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui prévoient, qui sont obligés de prévoir à l'avance, donc ils ne vont pas s'y prendre la veille pour les vacances scolaires. Même si c'est une tendance qui est de plus en plus aussi, Ça, c'est la nouvelle façon de voyager des Français.
De réserver
et on s'y prend de plus en plus tard, même si c'est les vacances scolaires. On s'y prend même une semaine, quatre jours avant, même si c'est les vacances. Tant pis, on se dit qu'on va trouver quelque chose. Et ça, c'était pas du tout le cas avant. C'était un peu le cas, mais ça, c'est devenu vraiment du jour au lendemain, les gens partent. Hein. On a des demandes, même pour le soir même, ou pour dans deux jours, ou le lendemain, et il faut savoir y répondre.
Les Français ont-ils envie de se faire plaisir ? Est-ce qu'on est prêt à dépenser plus cet hiver pour nos vacances après deux ans de crise sanitaire ?
On sent que les gens n'ont pas dépensé d'argent pour les voyages et que donc il y a une partie de ce budget qui est encore disponible. Donc on sent que les gens ont vraiment envie de se faire plaisir, d'avoir des massages sur place, de faire des excursions, plus qu'avant encore.
Merci beaucoup Pascaline Chabert d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice de l'agence de voyage My Travel Line. Merci, bonne journée.
Merci à vous, bonne journée.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. L'essentiel de l'actualité de ce mardi, le journal permanent, Alban Le Prince.
Deuxième jour pour Emmanuel Macron à la rencontre de la France rurale après la Creuse. Rendez-vous en Haute-Vienne pour le président. Dans l'après-midi, il décollera pour Berlin où il rencontrera le nouveau chancelier Olaf Scholz. Ils discuteront de la présidence française de l'UE, mais aussi du dossier ukrainien. La Russie qui menace toujours d'envahir le pays. Conséquence, réunion hier soir entre Joe Biden et les leaders de l'UE. Le Pentagone place ainsi 8500 militaires en état d'alerte, prêts à intervenir. Emmanuel Macron s'entretiendra de son côté dans les prochains jours avec Vladimir Poutine. Et puis à l'Euro de handball, victoire des Bleus hier soir face au Monténégro, 36 à 27. Un nul contre le Danemark demain suffira à les qualifier pour la demi-finale.
L'actualité est aussi culturelle chaque matin sur Europe 1.
Et le mardi, les questions de littérature avec vous, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Alors ce matin, vous nous parlez du nouveau roman de Frédéric Becbédé.
Exactement, Frédéric Becbédé qui revient avec Un barrage contre l'Atlantique chez Grasset. Un roman très étonnant, vous savez peut-être que Frédéric Becbédé n'est plus le noceur, le noctambule germano-pratin qu'il a été. Il s'est retiré depuis quelques années à Guétari sur la côte basque et ce qui devait arriver arriva. Son écriture a suivi le mouvement, elle a changé.
Son écriture a changé, c'est-à-dire Nicolas ?
C'est-à-dire que quand vous ouvrez le livre, vous voyez des phrases, l'une après l'autre, séparées par des blancs pour les isoler, pour ne pas que les phrases se cachent les unes derrière les autres. Et donc, ce sont des successions d'aphorismes, vous savez, des sentences sur la vie, sur le monde. Au début, on pense que ça va durer que quelques pages et que le roman va commencer. Et puis non, ça continue et ça crée un effet hypnotique. Vous ne lâchez plus le livre.
Mais il raconte une histoire tout de même, ce livre, Nicolas ?
Bien sûr, alors la sienne comme toujours, mais dans certaines de ses phrases apparaît un certain Benoît Barterotte, un sosie d'Hemingway, ami de Becbédé, qui vit au Cap Ferret et tente de construire une digue contre l'Atlantique depuis des décennies. C'est justement là que l'écrivain s'est retiré pour écrire, dans une cabane, et il observe ce type qui a accumulé des branches, des millions de tonnes de gravats pour éviter que son domaine ne soit englouti, même s'il sait que c'est sans doute inutile. Frédéric Becbédé.
C'est quelqu'un d'assez romanesque. En fait, bon, moi je l'ai croisé il y a 20 ans, et son histoire me fascine parce que c'est un des premiers à avoir une intuition de ce qui est aujourd'hui notre condition humaine, c'est-à-dire qu'on la nature se venge de nos dégâts, elle nous menace, elle veut nous submerger. Et lui, il avait dès 1985 défendu son terrain. Il est à l'extrême pointe sud du Cap Ferret. Il a commencé à jeter des rochers dans l'océan, un peu comme Sisyphe. Il y a un côté démiurgique, il y a un côté donquichotesque dans son projet, mais malgré tout, ça tient.
Et il parle de lui aussi, hein, Becbédé.
Oui, en fait, ce roman est le tome 2 d'un roman français, l'un de ses livres précédents autobiographiques. Et Becbédé revient sur sa vie, sur le divorce de ses parents, sur les années 80, sur ses amours, sa paternité, sur son enfance, donc dans un milieu aisé, plutôt heureuse cette enfance, mais pas dépourvue de violence. C'est ce qu'il raconte pour la première fois dans ce livre.
C'est très surprenant. En fait, dans les années 70, les parents se libéraient, mais les enfants restaient quand même encore dans un monde ancien, hein. Et pour se libérer, les parents confiaient leurs enfants soit à des pensionnats, soit à des écoles violentes, quoi. Et j'ai été tabassé par un directeur d'école, un prêtre. Et quand j'ai raconté ce souvenir dans le livre, j'étais très surpris, j'ai eu deux, de retours de camarades de classe qui avaient subi la même chose.
Alors attention, il y a aussi beaucoup de très bons souvenirs, de nostalgie heureuse. Vous allez me dire, la vie de Bec Bédé, bon, c'est pas qu'on s'en cogne, mais bon, oui. Mais il en fait quelque chose de plus universel, bien entendu, comme tous les écrivains. Et c'est le roman d'une époque que l'on lit, celui d'un monde d'avant, avec de la nostalgie, certes, mais désamorcée par l'humour mélancolique de Bec Bédé.
Le dernier, Frédéric Bec Bédé, Un barrage contre l'Atlantique, donc paru chez Grasset. Et vous, Nicolas, on vous retrouve tous les dimanches sur Europe 1, dans votre émission La Voix est libre, entre 14h et 15h. Merci Nicolas Carreau.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57 sur Europe 1. Dans un instant, la météo, le journal et du sport.
Du sport à l'école, et ce tous les jours jusqu'à ce week-end. C'est la semaine olympique et paralympique, 6e édition qui a débuté hier et qui doit théoriquement mobiliser 700 000 élèves, théoriquement, parce que avec le cancre Omicron, il ne vous aura pas échappé que les écoles sont quelque peu dépeuplées depuis la rentrée. Près de 19 000 classes fermées au dernier décompte, d'où cette question. Cette semaine olympique et paralympique a-t-elle encore un sens dans ce contexte sanitaire? Et plus largement, le Covid a-t-il freiner la scolarisation des enfants en situation de handicap? On en parle dans une dizaine de minutes avec Sophie Cluzel, notre invitée, la secrétaire d'État en charge justement des personnes handicapées. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
Sans eux, pas de Cure, pas de U2 non plus. L'émergence de la New Wave et du son rock gothique de Joy Division, emmené par le tourmenté Ian Curtis. Rendez-vous dans 20 minutes.
Pas de Joy Division sans Anissa Haddadi, visiblement.
Attention, ça envoie.
Oui, oui. C'est mardi. Avec un temps qui est de plus en plus gris.
Oui, en particulier au nord de la Loire. La journée va commencer comme hier, avec beaucoup de brouillard givrant, des brouillards qui auront bien du mal à se dissiper. Donc soyez vraiment très prudents sur les routes ce matin. Cet après-midi, entre la Bretagne et l'Alsace, en passant par la Normandie, les Hauts-de-France, les pays de la Loire, le centre-Val de Loire, la région parisienne, on aura des grisailles qui vont rester très tenaces. Et le soleil sera souvent masqué sur la moitié nord. Au sud de la Loire, là, la journée est bien plus belle, bien plus lumineuse, avec, comme hier, beaucoup de soleil. Quelques brouillards qui vont rester tenaces en Occitanie, sur le Poitou et dans le centre-est. Mais c'est quand même très agréable. Et c'est une fois de plus dans les Alpes qui fera le plus beau. Côté température, couvrez-vous ce matin. Moins 6 à Nevers, moins 5 à Grenoble, moins 3 à Reims. C'est Flavienne qui nous le signale. Antoine nous donne moins 2 à Voiron. Et Sophie, moins 1 à Rueil, comme à Paris.
Merci Anissa Haddadi. Et merci pour vos messages sur Facebook ou Twitter. Vous écoutez Europe 1. Très bon début de journée à tous. Il est 6h. Jamais le gazole et l'essence n'ont coûté aussi cher. Le gouvernement réfléchit à un nouveau coup de pouce, cette fois pour les gros rouleurs. Quel montant et pour qui précisément? Réponse dès le début de ce journal. Ils sont invisibles mais essentiels. Les agents d'entretien à l'affiche du film Ouistreham, des entreprises normandes viennent de signer un accord pour améliorer le quotidien de ces salariés précaires. Reportage à suivre près de Caen. Et puis, l'aide humanitaire arrive progressivement aux îles Tonga, 10 jours après l'éruption du volcan. Une onde de choc bien supérieure à celle de la bombe Hiroshima, avec des conséquences à plusieurs milliers de kilomètres des côtes.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Un bonus pour ceux qui roulent le plus. Bercy planche sur l'idée depuis plusieurs jours. 1,62€ le litre de gazole en moyenne, un record lié à la flambée des cours du pétrole. Maud Descamps, après l'indemnité inflation, cette fois le gouvernement s'apprête à revoir le montant des indemnités kilométriques.
Oui, exactement. L'objectif de Bercy, cibler les gros rouleurs, c'est-à-dire les travailleurs qui font beaucoup de kilomètres pour aller travailler et qui déclarent leurs frais réels. L'idée est de revoir à la hausse le barème d'indemnité kilométrique, une solution assez simple à mettre en place, précise-t-on dans l'entourage de Bruno Le Maire, puisque ce barème est réexaminé chaque année fin janvier sans que cela ne passe par le Parlement. Cette mesure concernerait environ 2,5 millions de contribuables et elle est la seule piste étudiée par l'exécutif. Il n'y aura donc pas de rallonge du chèque inflation de 100€, qui est d'ailleurs toujours en cours de distribution. L'annonce d'une révision du barème d'indemnité kilométrique pourrait être faite d'ici la fin de la semaine. Dans l'entourage du Premier ministre, on confirme que la piste est sérieusement étudiée, mais l'arbitrage n'a pas encore été fait, précise-t-on.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1, un arbitrage qui pourrait être décidé en fin de journée. Réunion prévue entre Jean Castex et Bruno Le Maire.
3 700 cas de Covid en moyenne pour 100 000 habitants. C'est le taux d'incidence actuel en France et c'est aussi le plus élevé d'Europe. Accessoirement, sur le continent, Omicron pourrait contaminer 60% des habitants d'ici le mois de mars.
Alors comment harmoniser la circulation des habitants au sein de l'Union européenne? Une réunion est prévue aujourd'hui à Bruxelles pour en finir avec les tests et les périodes de quarantaine. Un pas de plus vers le retour à la normale.
En France, ça commence dès la semaine prochaine, le 2 février, avec la fin du masque obligatoire à l'extérieur.
Des masques produits notamment à Neursac, près d'Angoulême, pour des industriels et des professionnels de santé. Les commandes publiques promises par l'État, elles, sont quasi inexistantes. Le reportage de notre correspondant Stéphane Place.
3 lignes de production et la 3e ligne est totalement automatisée, unique en France puisqu'elle est dédiée aux masques FFP2 et FFP3, 3 volets.
10 millions d'euros d'investissement, une usine de 2800 m² pour une vingtaine d'emplois à la clé. Le président de Next Emballage, spécialisé au départ dans la sécurité alimentaire, a choisi dès le début de la crise de fabriquer des masques ici en Charente. Mais Antoine Pontellier pointe un paradoxe qui ne colle pas vraiment avec la défense des produits français.
Une seule commande publique, elle est tombée il y a une semaine.
Pas de regret pour autant d'avoir parié sur la qualité et le long terme, d'autant que cet entrepreneur charentais voit enfin l'État inviter les acteurs publics à ne pas s'attacher qu'au prix d'achat des masques.
Les marchés publics avaient un logiciel qui priorisait le prix. Si, et c'est le cas, curieusement, depuis seulement une quinzaine de jours, une directive émanant du ministère de l'Économie et des Finances, puis un communiqué d'Olivier Véran et de Pannier Runacher, précise qu'il y a un code de bonne conduite pour les marchés publics qui permettrait d'inverser justement la tendance. Il aura fallu 2 ans, le double du temps qu'il nous aura fallu pour créer une usine ultra-moderne.
Des masques FFP2 charentais qui se vendent entre 30 et 60 centimes l'unité en fonction des volumes commandés.
Le reportage de Stéphane Place, correspondant dans le Sud-Ouest.
6h passées de 4 minutes sur Europe 1. Est-ce que vous connaissez Ouistreham, une petite ville normande où transitent chaque année près d'1 million de voyageurs entre la France et l'Angleterre? Dans le port, il y a d'énormes ferries qui stationnent en attendant les équipes de nettoyage. C'est le décor du film Ouistreham en salle depuis 2 semaines.
Un film d'Emmanuel Carrère qui a permis de changer le regard des entreprises sur ses agents d'entretien. Certaines entreprises ont même signé un accord pour permettre à ses salariés de travailler par exemple en semaine et surtout à des horaires raisonnables. Le reportage de notre correspondante Sandrine Prioul.
Où j'étais avant, non, je voyais pas les agents d'entretien. On se disait peut-être qu'il y a une petite fée magique qui intervient quand on n'est pas là, c'est magnifique.
Ici, la fée magique s'appelle Patricia Prieur, mais elle ne se lève plus à 3h30 du matin pour rejoindre des bureaux dans le froid de la nuit.
Je commençais à 5h, ensuite j'accumulais différents sites. Nous, quand on dit j'ai trouvé du travail, c'est 1 heure, 2 heures par-ci. Il faut se lever et puis c'est tout.
Je fais en sorte que le premier qui arrive, on allume la lumière, voilà, c'est propre. Et puis après, ben, je fais mon petit train-train.
Si j'achète quelqu'un, ben, il ferme sa porte. On arrive toujours à accorder nos violons. Voilà. Maintenant, je fais les choses comme une personne normale. Prendre ses petits-enfants au week-end, aller faire les magasins, être femme tout simplement.
C'est son client, l'entreprise Le Galet, qui en a eu l'idée il y a 8 ans. Aujourd'hui, Olivier Lemarchand se fait porte-voix d'une initiative de bon sens.
2014, on était peut-être avant-gardiste. En tout cas, aujourd'hui, c'est une évidence. Et effectivement, on a eu beaucoup de retours d'entrepreneurs qui nous disaient « Ah bah tiens, on se rend compte que c'est facile. » Et en fait, on n'y avait tout simplement pas pensé.
Des chefs d'entreprise plus nombreux à y penser et à franchir le pas. Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, Sandrine Prioul, Europe 1.
Et le film Ouistreham tiré du livre Sur le quai de Ouistreham de Florence Aubenas.
Des tentes, des cordages, des lampes de fret. L'armée française envoie 50 tonnes de fret humanitaire aux îles Tonga.
L'archipel est coupé du monde depuis le 15 janvier, date de l'éruption volcanique qui a provoqué un tsunami dans ces îles du Pacifique. Une onde de choc visible depuis l'espace, largement supérieure à la bombe atomique d'Hiroshima. Le récit de Laure d'Autriche.
Le volcan a craché un champignon de fumée qui a atteint 40 km de haut et l'éruption a été entendue jusqu'en Alaska, à plus de 9000 km de là. En 1945, la bombe atomique larguée sur la ville d'Hiroshima était estimée à 15 000 tonnes. Les scientifiques de la NASA estiment qu'ici, la quantité d'énergie libérée par l'éruption pourrait être de 30 millions de tonnes. L'éruption a recouvert de cendres toxiques toute l'île, qui compte environ 100 000 habitants, empoisonnée siphonnant l'eau potable, détruisant les cultures agricoles. Elle a aussi anéanti au moins 2 villages. L'état d'urgence environnementale a été annoncé pour 3 mois, en particulier parce que des milliers de barils de pétrole se sont déversés sur les côtes, créant une marée noire qui continue de s'étendre.
Le récit de l'or d'Autriche. Et puis une nouvelle plus positive, le télescope spatial James Webb vient d'atteindre son orbite finale. La NASA l'a annoncé hier soir. 1 mois après son lancement, le super appareil est positionné, tenez-vous bien, à plus d'1 500 000 km de notre planète. Il doit observer les premières galaxies de notre univers. Ça donne un peu le vertige. Et on attend les premières images pour l'été.
Le fameux point de Lagrange L2, exactement à 1 500 000 km de la planète Terre.
Puits de connaissances infinies.
Mais non, mais c'est pour être toujours dans l'ombre de la planète Terre, pour pouvoir capter les rayons ultraviolets. C'était le journal de Roman Hockey. Merci beaucoup, Roman.
Il est 6h07, et oui, évidemment.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Ce journal des sports présenté par Martin Lange. Et Martin, l'événement ce matin, c'est évidemment le quart de finale de Gaël Monfils à l'Open d'Australie.
Oui, Monfils affronte l'Italien Berrettini, 7e mondial, pour une place en demi-finale. Un niveau que le Francilien n'a plus atteint depuis 2016. C'était à l'US Open. Le choc entre les deux cogneurs devrait débuter en milieu de matinée.
On passe au handball avec des Bleus totalement relancés.
Oui, après sa défaite samedi contre l'Islande, l'équipe de France a rectifié le tir hier. Victoire nette et sans bavure contre le Monténégro, 36 à 27. Il suffit d'un match nul demain contre le Danemark pour voir les demi-finales. Écoutez la satisfaction de l'arrière-droit d'Ikamem.
On fait une bonne compète. En finale, on perd un match, mais c'est un match où on se tire une balle dans le pied tout seul finalement. Donc ouais, c'était super dur, mais ça fait énormément de bien cette victoire. Et aujourd'hui, on s'offre une finale contre le Danemark et on va essayer de la chercher.
Dit quand même au micro de nos confrères de beIN Sport.
Ça devait être le match de leur vie et ça a viré au cauchemar.
Oui, les Comores disputaient hier les 8e de finale de la CAN pour la première fois de leur histoire. Mais l'équipe s'est présentée sans gardien de but de métier après un incroyable micmac autour du cas Ali Hamada. Positif au Covid, puis négatif, mais écarté à cause d'un nouveau protocole dont personne n'avait entendu parler. Bref, c'est le défenseur Tchakar Aladour qui a dû porter les gants. Et malgré plusieurs exploits, il n'a plus empêché la défaite des siens. 2-1 contre les Lions indomptables camerounais.
On savait que ça allait être compliqué. C'est la première fois, je sais même pas dans l'histoire du football si ça a déjà existé, ce genre d'événement. Maintenant, je pense que je vais retenir que du positif. On a fait ce qu'on a pu. On n'a pas démérité et voilà, on peut ressortir vraiment très fier de cette compétition.
La fierté de Tchakar Aladur sur beIN Sport, un match qui a également tourné au drame en tribune. 8 personnes sont mortes dans une bousculade avant le coup d'envoi, chiffre officialisé par le gouvernement camerounais.
En bref, pour finir, Martin.
Un documentaire très attendu, disponible dès ce matin sur Netflix, Neymar, le chaos parfait, consacré évidemment à la star du PSG. Et puis du cyclisme pour finir avec un coup dur pour Egan Bernal. Le vainqueur du Tour de France 2019 a percuté un bus hier en Colombie lors d'une session d'entraînement. Il souffre d'une fracture du fémur et de la rotule et sa saison est en suspens.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, on reçoit Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. À tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée sur Europe 1. À 6h12, c'est votre invité Julien, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées.
Bonjour Sophie Cluzel.
Bonjour.
Merci Madame la Ministre d'être en ligne avec nous ce matin pour nous parler notamment d'un événement qui rassemble 700 000 élèves depuis hier et partout en France, la 6e édition de la semaine olympique et paralympique. En quoi ça consiste ?
Alors ça va être la fête du sport, c'est vraiment une façon de pouvoir sensibiliser les élèves à la pratique sportive, aux valeurs de l'olympisme et du paralympisme. On utilise le sport enfin comme outil pédagogique, comme vecteur d'intégration aussi, parce que énormément de possibilités de pratiquer des sports paralympiques, donc ça profite aussi au changement de regard des jeunes sur le handicap, et puis ça éveille les jeunes à l'engagement, puisqu'il y aura 2 grands sujets, c'est bien sûr le sport, l'olympisme, le paralympisme, et puis aussi l'environnement, donc des valeurs très très importantes qui pendant toute la semaine vont être célébrées avec un parrain aussi qui va circuler dans les écoles au-delà de Tony Estanguet, c'est notre astronaute Thomas Pesquet qui sera là aussi pour promouvoir les 30 minutes aussi de sport à l'école.
Oui, c'est le défi qu'il a lancé, mission 30 minutes très exactement, objectif que d'ici samedi on puisse faire 2 allers-retours théoriques entre la Terre et la Lune. Cet événement part aussi d'un constat, Sophie Cluzel, c'est qu'en 40 ans les jeunes ont perdu un quart de leur capacité cardiovasculaire, nos enfants font beaucoup moins de sport que nos aînés, a fortiori depuis le début de la crise sanitaire.
Oui, mais tout ça, c'est rattrapable. Hein. Il n'y a rien d'irrémédiable. Et c'est bien pour ça qu'on veut promouvoir ce sport à l'école. Parce que 30 minutes de sport à l'école, après, ce sont des enfants qui rentrent chez eux, qui entraînent leurs parents aussi à en faire. Hein. Pour nous, adultes, c'est une heure qu'il nous faudrait faire tous les jours pour bénéficier justement d'une bonne santé. Donc, il faut absolument remettre les enfants et du coup, la famille et les adultes au sport.
Vu l'importance des messages véhiculés par cette semaine olympique et paralympique dans les écoles, n'aurait-il pas été plus judicieux, Sophie Cluzel, de la reporter de quelques semaines? On a près de 19 000 classes fermées au dernier décompte.
Écoutez, c'est une semaine qui est très importante. Pourquoi ? Parce qu'on est à une semaine aussi des Jeux olympiques et paralympiques de Pékin. On est dans cette mouvance-là hein, de promouvoir le sport. Donc, tout a été calé. Il y a beaucoup de choses qui se passent en extérieur, hein, malgré le froid. Moi-même, je serai jeudi en établissement scolaire, en établissement spécialisé. Tout a été fait pour respecter les barrières sanitaires, mais c'est un enjeu de société, ce sport. Vous l'avez dit, hein, et je voudrais préciser aussi que les personnes en situation de handicap doivent faire du sport, peuvent faire du sport, et ça commence aussi avec ce sport partagé, parce que la situation est délicate pour les enfants qui ne sont pas handicapés, mais encore plus pour les enfants handicapés, puisque plus de 40% d'entre eux ne pratiquent pas de sport, hein, 34% dans la population générale, vous l'avez dit, donc je pense que c'était important de pouvoir avoir ce rendez-vous. Toutes les précautions sont prises, je tiens à rassurer tout le monde, hein, les gestes sanitaires seront respectés, mais il en allait vraiment de pouvoir avoir cette dynamique qui est enclenché en même temps de ce sport à l'école et de ce sport partagé. C'est important.
Dans ce contexte sanitaire qui reste très compliqué, Madame la Ministre, comment ça se passe pour les quelques 400 000 enfants en situation de handicap qui sont actuellement scolarisés ?
Ça se passe comme les autres, avec le respect des gestes sanitaires. Ça se passe, et je salue l'engagement vraiment depuis 2 ans, hein, des équipes enseignantes. Les enfants handicapés ont toujours été prioritaires lors de la sortie du confinement pour éviter justement les pertes d'acquis, et ça c'est important. Et ça se passe bien, la coopération aussi avec les professionnels du médico-social qui sont en appui.
Vous n'avez pas de retour de parents qui, vu le contexte sanitaire, préfèrent garder leur enfant à la maison pour éviter de les exposer au Covid à l'école ?
Écoutez, non, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est plus vulnérable. Hein. C'est les comorbidités qui entraînent une vulnérabilité. Donc là, c'est pareil.
Ce n'est pas ce que je dis, c'est que ça peut être le réflexe parental classique.
Mais je tiens justement à rassurer les parents, et les parents connaissent bien hein, ce protocole, ils le savent. Donc, et les enfants handicapés, je dirais, ont été largement habitués à ces gestes sanitaires et sont tout à fait respectueux de ce geste sanitaire. Hein.
Sophie Cluzel, vous avez il y a quelques jours sorti un livre, La force des différences, c'est son titre, sous-titre Changer de regard sur le handicap, c'est chez J.C. Lattès, livre dans lequel vous écrivez notamment ceci. En France, les enfants en situation de handicap ne partent pas avec les mêmes chances selon l'endroit où ils naissent. La puissance publique, les collectivités territoriales sont responsables de cette inégalité. Ce constat, Madame la Ministre, vous le faisiez exactement le même il y a 5 ans avant d'accéder au gouvernement. Est-ce que ça veut dire que sur ce point, rien n'a changé ?
Au contraire, beaucoup de choses ont changé. Hein. C'est tout l'enjeu justement de ce travail que j'ai construit avec les collectivités locales. C'est tout l'enjeu justement d'avoir cette égalité de chance qui est en train de se déployer. C'est l'enjeu aussi de faire savoir. C'est bien pour ça que j'ai fait le baromètre des maisons du handicap, hein, pour qu'on puisse mesurer justement l'avancée des droits, notamment les droits à vie, qui sont quelque chose de très important justement pour soulager le poids administratif pour les parents et les familles. Plus maintenant besoin de reprouver sans arrêt son handicap pour certaines pathologies. On peut avoir des droits à vie. Et ça contribue, je dirais, à la sérénité justement du parcours pour les familles. Et puis on avance main dans la main avec l'État, les collectivités locales et les organisations gestionnaires aussi, hein, les associations qui accompagnent les enfants handicapés et les adultes, bien sûr. Donc ça avance jamais assez vite pour les familles, on en est conscient.
C'est Mais pour on ça comprend qu'on a entre les lignes qu'il y a certaines collectivités qui avancent moins vite que d'autres.
Eh bien, c'est pour ça que je suis à leur côté. Au-delà de pouvoir publier les baromètres, j'ai rajouté justement 25 millions auprès des collectivités, des départements qui en avaient besoin, soit pour les accompagner sur leur système informatique ou la formation. Donc moi, mon but, c'est en effet, je suis la ministre de toutes les personnes handicapées, où qu'elles soient, et cette équité territoriale me tient à cœur. C'est pour ça que je travaille ainsi, main dans la main, avec les départements.
On comprend à travers votre livre, Sophie Cluzel, que vous avez très envie de rester dans vos fonctions, que vous vous verriez bien prolongée pour un deuxième quinquennat. Est-ce que je me trompe ?
Écoutez, c'est surtout que ce livre, je l'ai fait en dialogue hein, avec beaucoup de personnes en situation de handicap pour éclairer le handicap. C'est un vrai sujet de société. Bien au-delà du handicap, c'est comment on accueille toute la diversité et la différence dans notre pays. Et c'est une richesse, et ça fonctionne, et ça marche. Et donc, c'est un sujet de société que je porte, et je pense que ces échanges que j'ai pu faire avec ces personnalités qui parlent de la fratrie des aidants montrent bien qu'on est tous concernés. Hein. C'est plus d'un Français sur cinq. C'est un sujet de société. Ce sont des chantiers qui sont longs. C'est au long cours qu'on ne transforme pas d'un coup de baguette magique, justement, la scolarisation, l'insertion professionnelle, l'accueil de la différence, ce regard, il est en train de changer. Et aussi, je tiens à souligner aussi grâce aux médias, parce que on n'a jamais autant parlé du handicap que maintenant. On a fait une grande campagne nationale.
Oui.
Aujourd'hui, avec le sport, c'est aussi un vecteur d'intégration du handicap. Donc on est tous concernés, tous mobilisés. C'est une mission passionnante en effet.
La force des différents, changer de regard sur le handicap, c'est le titre donc de votre livre chez J.C. Lattès. Merci beaucoup Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès
des... Je tiens aussi à dire que toutes les recettes vont à la Fondation de France sur le programme justement participation des personnes handicapées, c'est très important pour moi.
C'est noté, merci à vous Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Bonne journée à vous et à bientôt.
Merci, au revoir.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
À 6h19, les principaux titres, Alban Le Prince.
Réunion entre Bruno Le Maire et Jean Castex. En fin de journée, le chef du gouvernement et son ministre de l'économie tenteront de trouver la parade face à l'explosion des prix du carburant qui atteignent de nouveaux records. Deuxième jour dans le Limousin pour Emmanuel Macron aujourd'hui sur le thème de la ruralité. Interrogé par un jeune d'un lycée agricole en Creuse hier sur une potentielle candidature, le chef de l'État a répondu « J'annoncerai ma décision en temps voulu ». Et puis au Cameroun, une bousculade mortelle hier soir à Yaoundé avant le match Cameroun-Comores en Coupe d'Afrique des Nations. Bilan 8 morts, dont un enfant et une cinquantaine de blessés.
On termine avec votre partition, Omblin. Retour le 25 janvier 1978. Ils ne le savent pas encore, mais quelques Anglais dans un club de Manchester sont en train d'assister à la naissance d'un mythe. Joy Division donne son tout premier concert.
Un peu plus de 2 ans plus tard, Julien, le suicide de son leader, le chanteur charismatique et torturé Ian Curtis, mettra brutalement un terme à la carrière du groupe Joy Division. Un passage éclair et essentiel dans l'histoire du rock. Sa fin tragique alimente encore aujourd'hui la légende et les fantasmes.
Au milieu des années 70, l'insouciance hippie n'est plus qu'un lointain souvenir. En pleine récession, une partie de la jeunesse anglaise se réveille avec la gueule de bois.
Le chômage, les réformes libérales, les émeutes raciales sous le futur gouvernement Thatcher, un terreau fertile qui alimente la nouvelle révolution punk. Récession rime avec rébellion. Sur scène, les Clash et les Sex Pistols entendent secouer cette génération désœuvrée.
Et dans le public se trouvent les futurs membres de Joy Division.
Ils scellent leur destin un soir de juillet 1976. Parmi eux, Ian Curtis, 20 ans, marié depuis l'année dernière, bientôt père de famille, bercé par la musique de David Bowie, des Doors et des Allemands de Kraftwerk.
Joy Division émerge de la vague punk, mais fait table rase du passé pour construire son œuvre.
Une musique sombre qui déconstruit la hiérarchie établie d'une partition classique de rock. La basse de Peter Hook au premier plan porte la mélodie, la guitare relégué au poste de soutien s'efface et brode autour du thème. La batterie ne donne pas le rythme, mais le suit grâce à l'avènement des synthétiseurs. Joy Division puise son inspiration dans la branche New Wave la plus noire, un rock gothique à l'atmosphère inhospitalière. Quant au texte de Ian Curtis, ils font référence à son sentiment d'échec personnel, à sa perte de contrôle. Souffrant d'épilepsie, rongé par la dépression, le jeune Anglais décrit sa vie comme étant chaque jour un petit peu plus misérable. Recession moves on, the shouting is over.
Praise to the glory of loved ones now gone. Le premier album de Joy Division, Unknown Pleasures, sort en juin 1979.
Parmi ses artisans, le producteur mancunien Martin Hannett, savant fou de nouvelles sonorités, on lui doit la paternité de ce style musical émergent qu'est la New Wave, hantée ici par la voix agonisante de Ian Curtis.
Et plus l'aura de Joy Division est rayonnante, plus le chanteur s'enfonce dans les ténèbres.
Oui, placé sous barbiturique pour contrôler ses crises d'épilepsie fréquentes, dévoré par son sentiment de culpabilité après être tombé amoureux d'une autre femme que la sienne, tourmenté par ses démons, Ian Curtis se donne la mort la veille du départ de Joy Division pour une tournée américaine. 2 mois plus tard sort le deuxième album Closer. Joy Division avec Love Will Tear Us Apart, publié en juin 1980. Juste après le décès du chanteur Ian Curtis, les autres membres de Joy Division formeront ensuite le groupe New Order.
Merci beaucoup, Ombline. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin.
6h27, vous écoutez Europe 1 et on vous souhaite de passer une excellente matinée.
Et on vous donne rendez-vous demain dès 5h. Bonjour Dimitri.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
C'était,